Et on apprend également cette visite surprise de Chuck Hagel, le secrétaire américain à la Défense. Il est en Afghanistan aujourd'hui, au lendemain de cette libération. Dans l'actualité également, ces 6 gardes frontières égyptiens tués ce matin dans le nord-ouest de l'Égypte par des hommes armés en provenance de la Libye. Il s'agirait de trafiquants d'armes. Une nouvelle fois, la question de la porosité de la frontière de l'Égypte et de la Libye est de nouveau source de tensions entre les deux voisins. Et puis des affrontements en Turquie un an après le début de la fronde anti-gouvernementale. Les rassemblements à l'appel de l'opposition turque hier pour marquer cet anniversaire ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. 25 000 personnes sont descendues dans les rues du pays alors que l'accès à la place Taksim au lieu de la contestation il y a un an a été interdit d'accès par les autorités.
Voilà, retour à l'international. Après ce point d'actualité sur RFI et sur TV5 Monde, nous recevons aujourd'hui Matata Ponyomapon, Premier ministre de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, l'ancienne colonie belge, comme on dit pour resituer par rapport au Congo-Brazzaville, dont nous parlions avant cette pause, et où les relations se tendent, on l'a vu, avec l'obligation des visas réciproques. Nous allons voir de l'autre côté la frontière est de ce géant africain qu'est la République démocratique du Congo, avec ce voisinage, cette situation très complexe avec certains de ces pays. Sophie Malibu.
Oui, tout d'abord, la situation en Centrafrique, vous avez des troupes déployées sur place, vous avez plus de 800 hommes. Est-ce que vous pensez maintenir ce contingent et est-ce que vous pensez même développer votre implication dans cette situation qui reste très critique puisqu'il y a eu de nouvelles violences ce week-end à Bangui?
Bon, effectivement, la situation sécuritaire en République centrafricaine nous intéresse au plus haut point. Vous savez, nous avons une frontière très large avec ce pays. Et aussitôt que les troubles y sont arrivés, en tout cas, nous avons développé une coopération qui vise à aider ce pays à sortir de la crise.
C'est ça n'en prend pas le chemin.
C'est sur base de ces éléments que le président Kabila avait décidé d'envoyer les troupes. Nous avons envoyé non seulement des éléments des forces armées, mais aussi des éléments des polices. Et selon le témoignage que nous avons entendu, la population centrafricaine apprécie énormément le service rendu à la fois par l'armée congolaise et la police congolaise. Mais évidemment, c'est une question qui mérite d'être examinée plus tard au regard des besoins qui se créent pour savoir si nous sommes à mesure de répondre favorablement. Mais c'est une question à examiner.
C'est-à-dire que vous envisagez éventuellement de monter votre contingent sur place ?
Si les besoins sont exprimés, certainement que le chef de l'État et qui est le commandant suprême examinera cette question avec beaucoup d'intérêt.
Ensuite, il y aura des forces onusiennes qui vont se prendre position à partir de septembre. Il y a tout un débat à l'ONU de savoir si ces forces devraient faire davantage pour protéger les civils. Le recours à l'emploi de la force pour protéger les civils, vu que la situation continue d'être extrêmement critique. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus ?
Bon, mais au regard de l'expérience que nous avons dans notre pays, notamment avec la situation à l'est du pays, nous ne pouvons que opter pour une force qui intervient en cas de besoin. Parce qu'il est inacceptable de pouvoir disposer de forces onusiennes qui regardent les traumatismes humains des populations qui sont censées être protégées par elles.
Voilà. Donc vous trouvez que ce que l'ONU fait dans votre propre pays avec la MONUSCO, leurs interventions sont en dessous des besoins ?
Je ne sais pas revenir sur cette question parce qu'elle appartient plus ou moins au passé, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas des foyers, mais si je dois répondre à votre question, je l'ai dit plusieurs fois, il est arrivé des moments où la population de l'Est, particulièrement celle des Goma, s'est révoltée contre des forces onusiennes, tout simplement parce que celles-ci, conformément à son mandat, n'étaient pas à mesure d'intervenir au moment où les populations étaient traumatisées, où elles étaient violées.
Et pour revenir sur la RCA, est-ce que vous avez une évaluation du nombre de réfugiés de Centrafrique qui viennent sur votre sol ?
Je n'ai pas les statistiques exactes, mais les services spécialisés ont une comptabilité précise de toutes les personnes qui ont traversé. Vous savez qu'entre la Centrafrique et la République démocratique du Congo, il est des endroits où la frontière est très très rapprochée. Et c'est très facile pour le Centrafricain de traverser, de se trouver chez nous.
Et il y a des informations qui circulent sur la présence éventuelle du fils de l'ancien président Bozizé à Kinshasa même, où il s'organiserait pour financer les milices chrétiennes anti-Balaka.
Ce sont des informations non fiables. Le président Kabila, c'est un homme très porté par la paix dans la sous-région. Et donc, il n'est pas à mesure, à l'instar d'autres chefs de l'État, de pouvoir, en tout cas, héberger des milices pour déstabiliser un autre pays. Ça, ce n'est pas dans la philosophie du président Kabila.
Il est impossible qu'il soit là sans que vous le sachiez.
Le président Kabila, c'est un pacifiste. C'est quelqu'un qui aime la paix dans la sous-région pour un progrès de l'ensemble des pays.
Il y a d'autres points complexes de tension toujours dans l'est du pays. Vos relations avec le Rwanda, c'est un point qui ne s'améliore pas dans les relations bilatérales. Il y a des victimes, il y a une partie de votre territoire qui n'est pas contrôlée. Comment est-ce que vous gérez cela pour, au fond, avoir la maîtrise de l'ensemble de votre territoire ?
L'ensemble du territoire congolais, aujourd'hui, est sous au contrôle des autorités de ces pays.
Totalement.
Et je dois vous le dire, parce qu'il n'y a aucune portion du territoire qui est sous contrôle de l'armée, comme c'était le cas avec le groupe armé M23.
Mais il y a encore des affrontements en ce moment même, ce week-end.
Ils font des victimes, oui.
Des affrontements aux frontières. Donc c'est bien qu'il y a des difficultés à contrôler le territoire.
Quand vous dites qu'il y a des affrontements, c'est tout à fait différent du contrôle du territoire. Aujourd'hui, tous les territoires est sous contrôle, mais ceci n'exclut pas qu'il y ait des groupes armés qui opèrent par-ci, par-là, et nous travaillons sur cet aspect des choses. Mais l'ensemble du territoire congolais est sous contrôle des autorités de ce pays.
Mmh. Vous y travaillez, c'est aussi des contacts diplomatiques avec les pays voisins. Dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez actuellement avec vos voisins rwandais, ougandais ?
Mais nous n'avons jamais interrompu les relations diplomatiques avec les Rwandais ni avec l'Ouganda. L'ambassadeur du Rwanda en RDC est ici. La diplomatie congolaise fonctionne à Kigali comme auparavant. Nous avons donc un site diplomatique là-bas. Les contacts demeurent, même au plus profond de la crise. Le président de la République, Joseph Kabila, a entretenu des contacts avec son homologue rwandais. Mais il faut noter que nous avons réussi, avec la remontée en puissance des forces armées congolaises, à mettre fin à ces groupes armés dénommés M23, qui, comme vous le savez, étaient appuyés.
Il y en a d'autres. Il y a d'autres groupes armés qui sont sur le terrain.
Oui, mais le plus important, c'était le groupe M23, qui était alimenté par des pays voisins.
Et, le Rwanda, par exemple.
Et, vous le savez, parce que lorsque nous avons exterminé le mouvement, nous avons retrouvé de preuves palpables d'implication des pays voisins, dont certains, leurs véhicules se sont retrouvés sur place. Mais aujourd'hui, le président Kabila, sa vision, c'est d'entretenir des très bonnes relations avec tous les pays voisins.
Alors, vous le savez, notre entretien, vous êtes diffusé actuellement dans le monde entier sur le réseau de TV5 et de RFI. L'opinion publique internationale est peut-être marquée par la montée en puissance du terrorisme sur ce continent. On peut penser à Boko Haram, par exemple, au Nigeria. Face à cette menace, et notamment avec l'enlèvement de cette jeune fille, quelle est votre réaction à vous, en tant qu'homme politique, en tant que qu'Africains ?
D'abord, un sentiment de compassion. tout le monde a été affecté par cet enlèvement de jeunes filles à fleur d'âge. Il n'y a personne qui peut accepter. C'est une situation déplorable et nous avons la sympathie envers non seulement les familles des filles, mais aussi un sentiment de sympathie au gouvernement nigérien. Mais ce que je voudrais dire sur cette question, c'est que d'une manière générale, les actes de terrorisme, les actes de barbarie plongent les racines dans la pauvreté. Si vous faites une analyse plus ou moins approfondie, vous allez voir que ce soit au sud du Sahara, que ce soit dans la partie du Nigeria ou en Centrafrique, c'est toujours des zones économiquement marécageuses où se retrouvent ces types de banditisme et ces types de terrorisme. Donc, de mon point de vue, il faut que l'Afrique accélère son développement. Il faut que l'Afrique accélère la mise en œuvre de ses projets de développement économique. Plus le pays est en progrès, plus le pays dispose des moyens pour faire reculer les murs de la pauvreté et donc reculer au mieux le terrorisme et les banditismes.
Il y a un autre point qui pose problème, c'est que pour essayer de coordonner leurs actions, les pays d'Afrique, qui ne se parlent pas toujours, sont obligés pour certains d'entre eux de monter à Paris. Le Nigeria et le Cameroun, par exemple, ne se parlent guère. Il a fallu une rencontre à l'Élysée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une meilleure entente entre ces pays d'Afrique?
Mais je pense que c'est une question qui se règle, bon, non seulement à Paris, mais vous savez, l'Afrique a le concert des nations à Addis Abeba, sous l'égide donc de l'Union africaine. Je crois que c'est à Addis Abeba où les pays africains se réunissent, se rencontrent et discutent l'ensemble de ces questions. Je crois que dans le cas d'espèce, il y avait une urgence, compte tenu du drame qui a été posé et qui nécessitait donc une rencontre immédiate. Je crois que la France avait donc la possibilité d'organiser cette rencontre en urgence. Voilà.
Et quand vous voyez que les troubles provoqués par Boko Haram se poursuivent jusque sur le terrain camerounais, récemment encore, est-ce que vous pensez qu'il faut éventuellement envisager une intervention au-delà des États africains, une intervention internationale? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Bon, c'est une question qui doit être examinée. Parce que quand vous regardez à fond cette crise, on y trouve des éléments religieux et qui parfois ont tendance à mener à l'extrémisme. Et la question des terrorismes n'est pas localisée uniquement dans ces pays ou en Afrique. Et je crois que, vu sous cet angle-là, le terrorisme étant quelque chose qui peut affecter l'ensemble du monde, il y a lieu d'imaginer des questions qui peuvent aller au-delà du continent.
Et vous parliez de la pauvreté. Effectivement, le terrorisme fait son terreau, c'est la pauvreté, mais c'est également quelquefois la faiblesse des institutions démocratiques.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. C'est une analyse pertinente. Mais vous savez, la faiblesse des institutions va de pair avec le progrès économique, va de pair avec la démocratie. Donc il faut absolument il faut regarder tout ça de manière globale et globalisante. Le progrès économique permet au pays de résoudre les questions sociales, et le progrès des questions sociales permet aux jeunes de ne pas trop s'attacher aux préceptes religieux. Ils sont occupés, ils travaillent, et bref, donc on aménuise le marge des terrorismes.
Alors, si on aborde de ce point, nous aimerions vous poser des questions sur l'avenir politique et institutionnel de ce pays. On se dit tout, naturellement, sur les antennes qui sont les nôtres, RFI et TV5 Monde. Nous n'étions pas même sûrs de pouvoir nous rencontrer aujourd'hui, parce qu'on nous dit depuis des mois, le Premier ministre, il va peut-être changer, il n'est pas sûr qu'il soit reconduit. Comme ça ne dépend pas de vous, on ne va pas vous demander si c'est vrai ou non, mais vous êtes au moins candidat à prolonger votre mission de Premier ministre, si le président Kabila vous le demande.
Bon, effectivement, le choix du Premier ministre ne relève pas de ma compétence. Le pays est dans un processus démocratique bien établi. Les règles d'IG sont connues. Le Premier ministre est le produit de la majorité présidentielle. Et dans les cas d'espèce, l'autorité morale de la majorité présidentielle, c'est le président Joseph Kabila.
Mais ce n'est pas être facile de travailler tous les jours en se disant est-ce que je suis reconduit ou pas ?
Non, je crois que c'est une question d'option personnelle. Depuis que l'on a annoncé la formation du gouvernement de cohésion nationale, je n'ai pas baissé le bras pour travailler. Je continue à travailler parce que je fais quand même partie d'un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, le PPRD, et je bénéficie de la confiance non seulement de mon parti, mais aussi du président Kabila, et donc de la majorité présidentielle. Et ce n'est que lorsque le choix va être changé et que je serai appelé à remettre mon tablier.
Mais jusqu'au... Et vous avez envie de le reprendre, ce tablier, après
Jusqu'au moment où...
Vous ne me répondez pas, vous avez envie de continuer.
Non, jusqu'au moment où on ne m'a pas encore retiré la confiance, j'ai continué à travailler et à 100%, à 115%, pour pouvoir répondre aux exigences du programme pour lequel le président Kabila a été élu.
Alors, le gouvernement de cohésion nationale, il a été annoncé déjà au mois d'octobre, il n'est toujours pas en place. Déjà, pourquoi faut-il un gouvernement de cohésion nationale ? C'est pour faire face à la montée des oppositions ?
Non, je pense que c'est de l'initiative du président de la République, le président Kabila, que les concertations nationales ont eu lieu. L'idée, c'était de bâtir davantage la cohésion de notre pays face notamment aux problèmes des guerres qui se posaient à l'Est. Et je crois que c'était une initiative très louable parce qu'elle visait à consolider la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous n'avons plus de guerre à l'Est du pays. Mais le chef de l'État, c'est un homme qui reste très, très, très attaché à ses promesses. Et je crois que, comme nous le savons tous, il a annoncé la formation du gouvernement des cohésions nationales. Et aujourd'hui, selon toutes les informations en notre possession, il y a des contacts qui sont en train de se faire, il y a des concertations qui sont en train de se faire. Donc, laissons voir le temps s'est réalisé.
Vous dites le président est donc attaché à ses promesses. Est-il aussi attaché à la Constitution ? Et a priori, lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était pour un dernier mandat. Est-ce que cette question du troisième mandat qui se pose aujourd'hui est-elle tranchée ou non ?
Le président Kabila, c'est un homme qui est très attaché à la démocratie. Nous ne devons pas oublier que c'est lui qui est à la base de premières élections démocratiques dans ces pays, qui ont eu lieu en 2006 et pour la deuxième fois en 2011. Il faut les lui reconnaître. Deuxièmement, la question de 2016, à mon avis, aujourd'hui, ne mérite pas d'être posée avec aussi d'urgence.
Pourtant, elle fait la une de tous les journaux. Partira, partira pas. Bon. John Kerry, lui-même, intervient dans le débat en disant il faut pas de troisième mandat. En France, on dit la même chose. Il y a quand même une vision, un regard international. On peut faire semblant de ne pas poser la question en se disant c'est dans deux ans. Vous savez bien, vous-même, qu'elle est dans ce pays et à l'extérieur, au cœur de toutes les préoccupations.
Bon, c'est ce que je vous dis. Je crois que sur cette question, je me réfère aux propos très pertinents du président Kabila. Répondant sur cette question, le président a dit « Nous avons encore beaucoup de temps par rapport à 2016 et nous avons le temps de travailler et les moments venus, la question sera posée et les réponses pertinentes seront données. »
Il y a des divergences au sein même du pouvoir. On avait sur cette antenne même Lambert Mende qui nous disait qu'il y aurait un passage de relais à l'échéance 2016.
Il y a deux mois, oui, il nous a dit ça sur cette antenne internationale.
Oui. Et puis ensuite, on apprend que le parti au pouvoir finalement est derrière une nouvelle candidature du président Kabila. Il y a des divergences au sein même du clan.
Je ne voudrais pas me référer au point de vue des uns et des autres. Je crois que la personne des références à laquelle moi je voudrais me référer, c'est le président de la République. Et nous réunissant la majorité dans sa ferme de Kingakati, la question avait été soulevée et il avait clairement dit que nous avons encore du temps pour traiter de cette question.
Donc la décision n'est pas prise.
Nous sommes à mi-mandat. D'ici 2016, beaucoup d'eau peuvent couler sous les ponts. Voilà.
Ce qui veut dire que la décision n'est pas prise d'un éventuel troisième mandat. C'est encore ouvert.
Je ne suis pas à mes yeux de répondre à cette question. Je crois que ce serait mieux de vous référer aux propos du président Kabila que je viens de vous restituer tout à l'heure.
Très bien, nous serons très heureux de l'accueillir sur cette antenne.
Mais est-ce que la question ne se déplace pas également sur les délais? Est-ce que vous pensez que, par exemple, la priorité, ce serait d'avoir des fichiers électoraux rafraîchis, réactualisés? Et est-ce qu'à ce moment-là, la question se poserait d'emblée aujourd'hui, parce qu'il faudrait recensement électoral, il faudrait mettre en branle tout un travail?
Et sur cette question, madame, il faut bien vous référer à la CENI, qui est notre structure d'organisation des élections. La CENI vient de publier un calendrier électoral pour les élections urbaines, ainsi de suite. Donc c'est un processus. J'ai été ministre des Finances lorsque les dernières élections ont eu lieu. Je connais un peu les coûts. Et ça nous a coûté un peu plus de 450 millions de dollars américains pour un pays comme le nôtre. C'est très cher. Nous n'avons pas reçu, en tout cas, des financements extérieurs.
Et
donc, c'est très beau de dire « faites les élections », mais c'est aussi mieux d'apporter sa contribution parce que ça coûte très cher. Il y a une problématique entre la réalisation des élections démocratiques, mais aussi, sur des questions sur lesquelles vous êtes revenu, le recul des murs de la pauvreté en créant des richesses.
Oui. On choisit entre démocratie et pauvreté.
Mais voilà, on ne crée pas des richesses avec une multitude d'élections. On crée des richesses avec des financements qu'il faut avoir. On réalise les élections avec des financements qu'il faut avoir.
Mais les financements, on peut toujours les trouver. Le représentant de l'ONU a dit
Je ne suis pas d'accord avec vous, madame, pour avoir été ministre des Finances.
Mais que vous avez dit le représentant de l'ONU ici.
C'est très beau de dire, faites les élections, on va vous amener de l'argent. Mais on l'a vu en 2011, il y a eu des promesses qui n'ont pas été réalisées et le gouvernement a été obligé de prendre en charge presque totalement les coûts des élections.
Est-ce que vous nous dites que ces élections, le processus démocratique, c'est au fond au-dessus des moyens aujourd'hui de la RDC ?
Non, écoutez, nous avons des élections qui sont successives. Mmh. Et c'est là même la problématique des élections directes ou des élections indirectes. Mmh. C'est très beau de se focaliser sur des élections du type direct, parce que tout le monde doit s'exprimer. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces modes d'élection, dans un pays aussi vaste comme la RDC, c'est des coûts énormes. C'est des budgets qu'il faut mobiliser.
Ce qui se passe, c'est que pour débloquer les fonds, l'ONU demande qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Aujourd'hui, c'est bien la question. Si les conditions, le respect de la Constitution étaient acquis, à ce moment-là, vous, comme vous le savez, vous auriez les fonds.
Je voudrais vous replacer dans l'histoire, madame. En 2011, la République démocratique du Congo a respecté beaucoup des conditions qui étaient des préalables pour débourser de l'argent. Une fois que ces conditions ont été réalisées, on n'a pas vu cet argent-là. Voilà.
Ce que vous pensez,
C'est très beau d'interroger. C'est beau votre rôle des journalistes, de poser les questions. Mais moi, je vous réponds sur base des constats de l'histoire.
On écoute vos réponses, naturellement.
Dans vos réponses, on comprend que le mandat pourrait peut-être être éventuellement allongé.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, les promesses, parfois, ne sont pas réalisées. Voilà.
On va essayer, puisqu'on n'aura pas de réponse précise sur ce point, peut-être revenir sur d'autres élections. Vous avez vu dans les journaux, sur nos antennes, ce qui vient de se passer en Europe, avec une montée des anti-européens, de l'extrême droite, même en France, première formation politique de ces élections. Comment est-ce que vous, qui travaillez avec l'Europe, avec Paris, avec Bruxelles, comment est-ce que vous réagissez?
Nous ne pouvons que regretter cette montée en puissance de l'extrême droite. Nous le regrettons autant que les Européens le regrettent aussi, parce que nous avons tous vu, en tout cas, des réunions qui n'étaient pas programmées et qui doivent se tenir à Bruxelles, justement parce que tout le monde, au niveau des dirigeants européens, réalise qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais encore une fois, je voudrais souligner que cette montée en puissance de l'extrême droite plonge en tout cas ses racines dans la crise dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Un peu à l'instar de ce que je vous ai dit lorsque vous m'avez posé la question sur la question du Nigeria. il faut que l'Europe se redresse. Et une fois que l'Europe va se redresser, je crois que la population n'aura pas d'autre choix que d'appuyer ceux qui créent des richesses. Mmh. Aujourd'hui, je crois que la pêche que réalisent les extrémistes, c'est effectivement dans ce bourbier des crises.
Mmh. Voilà. Et vous, vous préféreriez avoir un partenaire européen solide plutôt que divers partenaires qui ne s'entendent pas ?
Ah, bien sûr, ça c'est clair. Pour raison de cohérence et pour besoin de partenariats objectifs, il faut avoir en face de vous des dirigeants qui sont confortables. Ça c'est clair.
Madame Pognomapon, Premier ministre de RDC, nous recevez aujourd'hui dans le premier pays francophone.